vous siffle un bonjour aujourd'hui depuis un endroit singulier sur les hauteurs de Paris et les hautes sphères d'une république qui affiche fièrement son emprise territoriale. Vous allez l'entendre. Ce n'est ni plus ni moins avec le second personnage de cette république que nous avons rendez-vous. Tenez-vous bien, monsieur le Premier ministre a accepté aujourd'hui de nous faire pénétrer dans son intimité et visiter son territoire.
Quel étage ?
Quel étage vous allez, vous ?
4.
Vous savez que vous habitez en dessous du Premier ministre ?
Oui.
Et vous l'ignorez en plus.
J'ai eu un gros problème de terrasse.
Faudra écrire à la République, alors.
Oui, mais à la République, je crois que...
Je vais m'en entretenir avec lui.
Bonne journée.
La discrétion semble donc être un de ses traits de caractère à notre Premier ministre. Je savais qu'avant de revêtir cette fonction illustre, il fut illusionniste, publicitaire pendant de longues années, et même ancien clown blanc, ayant travaillé avec un auguste nommé Gluck. Il a d'ailleurs gardé, monsieur le Premier ministre, ses proches en conviennent, un côté pince sans rire et rassurant, autoritaire et sarcastique parfois. Des traits de caractère, ma foi, pas incompatibles avec sa fonction à la tête de la République.
Je ne sonne même pas, la porte est ouverte. Pas de protocole, monsieur le Premier ministre, bonjour.
Bonjour.
Figurez-vous, je viens de parler avec votre voisin de dessous.
C'est vrai ?
Qui tout d'abord ignorait votre fonction, et qui s'est plaint de ses fuites d'eau.
Ah, ça c'est encore une autre histoire, je n'y peux rien. Hein. Ça fait partie des petits inconvénients de la vie montmartroise.
Alors, voilà quelque chose qu'on ignorait peut-être, c'est qu'on est à Montmartre, et dans cette partie, c'est-à-dire la rue Feutrier, non loin de la rue Clignancourt, on est à l'une des frontières de Montmartre.
C'est même l'une des rues les plus anciennes du village, puisqu'on retrouve sa trace dans des plans du XVIe, XVIIe siècle. La rue Feutrier existait déjà. Elle ne s'appelait pas comme ça, bien entendu. Mais c'était un chemin de passage à l'époque où Montmartre était encore qu'un village et où la ville n'avait pas encore englobé tous les petits villages qui se trouvaient autour.
Essayons justement de... Puisque vous avez la chance, Pierre Passot, vous, le Premier ministre de cette République de Montmartre, c'est bien cela ?
C'est tout à fait ça, oui.
Vous avez la chance d'avoir ici une terrasse qui surplombe un peu Montmartre. Si on s'approche du balcon, qu'est-ce qui s'offre à nous ?
On est à mi-pente, en fait. Et ce qui s'offre à nous, c'est tout simplement une vue assez superbe sur le Sacré-Cœur. C'est même ici que Woody Allen a tourné une partie de son film il y a quelques années sur I Love You. C'était ici même, dans cette rue Feutrier.
Tant qu'il y a cet aspect, si on était de l'autre côté de la butte, ceux qui nous écoutent comprendront tout à l'heure, après cette visite d'une heure, un peu plus les méandres, justement, de ce que vous appelez encore un village. Pierre Passot, vous, le Premier ministre d'une République, est-ce vraiment sérieux d'appeler ça un village ? Les auditeurs comprendront, si on était de l'autre côté, qu'on serait sur le territoire, non pas de Woody Allen et d'I Love Paris, mais d'Amélie Poulain.
Oui, bien sûr, il y a 36 petits quartiers dans Montmartre même. La rue des Abbesses est un quartier un petit peu plus bobo, dit-on. Mais c'est bien là que Amélie Poulain a réussi à convaincre les locataires de quitter parfois leurs appartements parce que les loyers étaient devenus excessivement plus chers. Jean-Pierre Jeunet, je pense qu'un jour on devrait lui, pas nous bien entendu, mais les agents immobiliers, lui élever une statue. En fait, c'est lui qui a fait grimper le prix du mètre carré dans des proportions qui sont excessives parfois.
5 ans plus tard, Amélie est serveuse dans un café-restaurant de Montmartre. Les deux moulins.
Bonjour tout le monde.
Un kira ligoté, une mauresque et deux mentalos.
Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même. Tout est parfait en cet instant. La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville.
Pierre Passot, à peine on est sur votre balcon de Premier ministre, je le répète, de cette République, on est déjà en train de flirter un peu avec les clichés. La preuve, le cinéma s'en empare.
Oui, il y a encore évidemment pas mal de clichés à Montmartre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vie montmartroise qui existe, qui est réelle, avec des gens qui se connaissent, qui s'apprécient, qui font des fêtes ensemble, par exemple.
Avec qui on a rendez-vous, là ?
Nous avons rendez-vous avec Jean Villain, qui a fait un livre qui s'appelle « Montmartre Forever ». toujours. J'ai eu le plaisir d'être l'auteur, l'écrivain, et lui le photographe. Et il a replacé son trépied de photographe là où une centaine d'années avant lui, un autre photographe avait fait la même prise de vue. Et c'est un livre assez fantastique de voir comment Montmartre a évolué, parfois en bien, parfois en mal. Il y a des endroits qui n'ont jamais bougé et d'autres qui, au contraire, sont parfaitement méconnaissables.
C'est dans cette mémoire-là de Montmartre, celle que, évidemment, vous préservez, celle que vous chérissez ici, à la République de Montmartre, depuis maintenant plus de 90 ans, c'est ça ?
C'est bien ça, oui, tout à fait.
C'est dans cette mémoire-là qu'on va osciller toute cette heure. Un petit café quand même, tout de même, avant ?
Mais bien sûr, on va prendre un petit café, tout de suite, maintenant.
Il existe un endroit. Alexandre Hérault, sur France Inter. Everyone says I love you. The cop on the corner and the burglar too. The preacher in the pulpit and the man in the pew says I love you. Everyone, no matter who. The folks over 80 and the kid of two. The captain and the sailor and the rest of the crew says I love you.
Là, l'ascenseur s'ouvre, l'esprit de cette République de Montmartre.
C'est une association qui est donc née il y a plus de 90 ans, comme on l'a dit, avec une triple vocation qui était à la fois d'être caritative, d'être culturelle et d'être festive. Et on retrouve aujourd'hui ces trois caractéristiques, bien entendu, dans toutes les actions qui sont les nôtres. La devise, c'est faire le bien dans la joie. Montez par là.
Où nous attend votre ami photographe, collègue Jean Villain.
Jean Villain qui est en même temps photographe et aussi ministre des Beaux-Arts de la République de Montmartre. Il nous attend à l'angle de la rue Feutrier et de la rue André Delsarte.
Il paraît qu'il est difficile de le rater. Il fait plus d'1m90.
Ah oui, c'est un grand ministre, très grand.
Voilà, voilà, avec son objectif. En face de la quincaillerie, effectivement, et de la boulangerie Raphaël, boulangerie pâtisserie. Oui, ouais, impressionnante silhouette des magasins du Fayel, là-bas sur l'angle de la rue André Delsarte, et qui est rue de Clignancourt, c'est ça. Jean Villain, vous nous observez tout à l'heure, on est arrivé, on vous dérange peut-être un peu dans cette prise photographique ?
Non, bonjour. Pas du tout, puisque la lumière est belle et je pense qu'elle va rester belle encore quelques heures. C'est pour ça que j'ai choisi cette journée pour faire ce complément photographique, puisque nous allons faire une troisième édition à notre livre que l'on avait fait avec Pierre. Et voilà, cette boulangerie a changé. 1910 à peu près, la carte postale sur laquelle nous sommes actuellement.
Petit exercice de style d'ailleurs, Jean Villain. J'ai avec moi le dit objet, c'est-à-dire ce livre, Montmartre Forever. Vous allez peut-être l'ouvrir, m'aider à l'ouvrir à la page où justement il y avait cette photo que vous avez prise il y a quelques années.
Eh bien voilà, nous sommes à la page 51.
Ah ben les voilà les établissements
nous
du Fayet.
Avons, voilà, c'est presque au niveau du Sacré-Cœur.
Ce qui surprend le plus, Jean Villain, on est devant un décor qui n'a pas changé.
Du tout. On voit un petit peu plus de végétation sur la photo, mais c'est tout. Sinon, on a exactement le même décor, nous avons les mêmes immeubles, on a les mêmes boutiques, on a quasiment les mêmes activités, puisqu'à l'époque, c'était déjà une boulangerie. Donc, il y a un siècle, on avait déjà une boulangerie à cet angle. Ça n'a pas bougé.
Est-ce que ça fait partie des choses, ces pages-là, où on se rend compte qu'il y a une forme d'immuabilité de la butte, que ce village persiste? Est-ce que ça fait partie des choses qui vous rassurent?
Rassurer, je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est une continuité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Montmartre ne bouge pas, tout en se modernisant quand même, puisqu'on a quand même on a des voitures maintenant. On a des voitures, beaucoup de voitures d'ailleurs. C'était un des gros problèmes pour faire ce livre.
Elle pollue la plupart des photos.
Elle pollue les images énormément. Mais à part ça, Montmartre n'a pas bougé.
Ah oui.
Il n'y a rien eu, rien. On a tenté au 19e siècle de percer des avenues à travers Montmartre. Mais heureusement, les habitants se sont révoltés. Ça ne s'est pas fait, parce que sinon, ça aurait été vraiment une catastrophe, bien entendu.
Vous parlez, vous, ministre des Beaux-Arts, sous, évidemment, l'autorité presque de votre premier ministre, Pierre Passot. On évoquait ce côté immuable du village, de cette république, donc.
Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Mais il y a des tas de coins de Montmartre qui ont totalement disparu. Dans le haut de la rue Lamarck, notamment, la tour Solferino, tous les moulins, bien entendu, eux, n'existent plus non plus. Il n'en reste plus que deux, et encore, un faux et un vrai. Donc, non, on ne peut pas dire ça. Mais Montmartre reste quand même, dans la mesure du possible, encore un lieu relativement protégé, mais pour combien de temps, on n'en sait rien. Il y avait un grand plan d'urbanisme et de maintien des lieux qui avait été fait par un homme formidable qui était Claude Charpentier. Mais depuis qu'il n'est plus là, ben, on se rend compte qu'il y a des autorisations de construction d'immeubles qui sont parfaitement hideux et contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Donc soyons vigilants, c'est notre boulot.
Jean Villain, vous l'apprenez comment cette fonction de ministre des Beaux-Arts?
Ministre des Beaux-Arts, à la République.
Ah, ça vous fait sourire.
Oui, tout à fait. Oui, parce que la République de Montmartre, faire le bien dans la joie, on est dans la joie.
Bienvenue à bord du petit train Montmartre pour un circuit commenté de 35 minutes. Découverte originale et incontournable de Montmartre. Welcome aboard,
Montmartre. Jean Villain vient de passer justement à l'angle de la rue Feutrier et d'André Delsarte où nous nous trouvons. Le petit train que tous les Montmartrois connaissent bien, le petit train qui draine sa multitude chaque jour de touristes. Le plus étonnant, c'est que près de 10 millions de touristes du monde entier visitent Montmartre et que Montmartre soit d'une certaine manière encore Montmartre.
Mais voilà, ils aiment bien, je pense, ces touristes, le côté extrêmement rétro de ce petit train.
Mais vous en faites aussi partie de ce folklore montmartrois.
Bien sûr, la République fait partie du folklore. Elle est absolument indispensable. Et d'ailleurs, quand on se promène dans notre uniforme, cap, chapeau et écharpe rouge, les gens adorent nous arrêter pour se faire photographier avec nous. On fait vraiment partie du folklore.
De la réserve d'Indiens. Tiens, revenez un petit train.
Là, c'est le concurrent. Il y en a deux qui tournent, ça c'est le concurrent. Voilà. Il était beaucoup plus plein que le précédent d'ailleurs. Hein.
La crèche israélite qui a été à l'origine le siège de la société Le Vieux Montmartre en 1886, c'est pas d'hier, et c'était un restaurant qui s'appelait le Rocher Suisse.
On est au coin de la rue Lamarque et de la rue du Chevalier de la Barre. Effectivement, on est en train de les monter, ces escaliers. On arrive là, très bientôt, Pierre Passot, on arrive sur le point culminant de la butte, qui est à quelle hauteur, on le rappelle ?
129 mètres.
Qui est le point culminant de Paris.
Alors on se bat avec la rue du Télégraphe, du côté de Belleville. Mais enfin, en gros, on va dire que c'est encore Montmartre qui est de loin, de quelques centimètres, au moins, le plus haut point de Paris.
Mais que depuis 1860, me semble-t-il.
Oui, parce qu'avant, Montmartre était un village indépendant, une commune libre. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le 18e arrondissement.
On s'y fait, ça ?
Oh ben, on n'a pas le choix.
On est Premier ministre d'une République et on se fait d'être annexé par une capitale
C'est en réponse à cette annexion, justement, qu'on a gardé l'esprit libre et la volonté d'avoir une république pour rire, avec un vrai président de la République, deux vice-présidents, un premier ministre. Enfin bref, c'est un peu une copie caricaturale de ce qu'est la vraie République française.
Des députés ?
Des députés, des consuls...
Des ambassadeurs. Et tout au départ a commencé en 1921-1920, dans un jour d'hiver de 1920, par une grande farce.
Une grande farce, oui et non. En fait, c'était la volonté de quatre artistes de l'époque, qui s'appelaient Villette, Poulbeau, Forain et Neumont, d'essayer de faire la nique, je dirais, aux gratte-ciellistes et autres personnes qui étaient déjà en train de vouloir défigurer la butte. Et donc, ils ont décidé de créer cette association qu'ils ont baptisée la République de Montmartre. Voilà. Ça fait 92 ans qu'elle a été créée. Et aujourd'hui encore, on garde toutes ces traditions.
On vient de gravir ces escaliers. On est derrière la basilique de Montmartre. On n'est pas donc face à Paris qui s'étendrait devant nous. Mais c'est un endroit étonnant. D'ailleurs, vous avez vu, Pierre Passot, les touristes ne vont pas derrière. Étrangement, peu de choses il leur faut pour s'arrêter aux touristes.
Ils ne savent même pas que la plus vieille église de Paris est devant eux, c'est Saint-Pierre de Montmartre. Elle date du XIIe siècle, 1134 très exactement pour la première pierre. Et c'est une très très belle église. C'est un peu l'église de la paroisse ici, pour nous. Ce n'est pas le Sacré-Cœur, voilà. Le Sacré-Cœur, c'est une basilique. Elle attire à peu près 10 millions de touristes par an. 10 millions de touristes. Là, il n'y a pas un chat, il n'y a personne.
Ça n'a de cesse de vous surprendre, ça, finalement.
Oui, oui,
l'animal touristicus.
Oui, il existe. On ne va pas lui reprocher d'exister, au contraire.
Comment on protège alors l'esprit des lieux que vous incarnez, vais-je dire, à la République de Montmartre ?
Il faut savoir qu'il y a à peu près une soixantaine d'associations à Montmartre même, dont certaines ont la vocation précisément de défendre l'originalité des lieux, d'autres qui sont plus orientées sur l'aspect caritatif, d'autres sur l'aspect même sportif, etc. Mais il faut savoir que depuis très peu de temps, l'ensemble de toutes ces associations s'est réuni dans un collectif qui s'appelle le collectif des associations montmartroises. Et l'objectif est d'essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour que Montmartre reste une terre fréquentable, aussi bien pour les habitants que pour les touristes eux-mêmes, faciliter leur accueil, leur rendre le meilleur service possible et leur donner envie de revenir.
Jean Villain, j'ai besoin du photographe que vous êtes pour décrire le spectacle qui s'offre à nous ici en dessous du fameux magasin Tartampion.
Oui.
Rue du Chevalet de la Barre, dans l'épicentre du Montmartre touristique.
Plein de touristes, par centaines on va dire. Nous qui sommes de Montmartre, on traverse un petit peu ces gens comme des fantômes. On est un peu chez nous, donc ces gens changent tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, et ce ne sont plus des êtres, ce sont des fantômes qu'il y a autour de nous.
C'est parfois un peu encombrant, certains fantômes, les spectres sont nombreux, il faut se frayer un chemin, ça bouscule.
Tout à fait, mais on a nos chemins, on a nos raccourcis.
Je vous suis, je ne fais que ça d'ailleurs.
Nous allons nous diriger par les escaliers qui sont nombreux à Montmartre, vers un restaurant qui fait partie de la légende de Montmartre et qui s'appelle La Bonne Franquette.
C'est vrai qu'on peut contourner rapidement la présence des touristes qui s'abreuvent aux enseignes, convoquant un patrimoine culinaire franchouillard. Des visiteurs internationaux qui nous font oublier, malheureusement, que le cosmopolitisme, ici, dans le Haut-Montmartre, ne rime pas nécessairement avec culture.
Et on a déjà pas mal de monde. Ce que je vous conseille, c'est de passer, si vous êtes dans le coin, passez, et puis si on a de la place, on vous accueillera avec plaisir.
Voilà. On se rend dans l'endroit traditionnellement choisi par la République de Montmartre pour fêter en banquet la fin des vendanges légendaires, la 80e du nom cette année. Une fête populaire qui réunit maintenant sur 4 jours près de 500 000 curieux qui se répandent, comme l'a voulu la municipalité, sur tous les quartiers de Montmartre. Car Montmartre est un village ne se réduisant pas aux hauteurs de la butte, ce qui n'est pas sans déplaire à notre hôte débonnaire, Patrick Frachebout.
Montmartre, c'est pas simplement le haut, c'est tout le quartier. Ça peut être la Goutte d'Or, c'était là où on faisait le vin, Zola, tout ça. Le Montmartre, nous, on est un peu dans le Montmartre un peu privilégié. On était le Montmartre des pauvres, le maquis. Et maintenant, nous, on est en haut de Montmartre, donc on est un petit peu privilégié. c'est les touristes qui sont dominants, c'est les Parisiens qui disent il peut y avoir de bonnes adresses à Montmartre en haut, mais il y a des Montmartres. Aujourd'hui, il y a le Montmartre Bobo, la rue des Abbesses, mais il y a celui de la rue des Poteaux, il y a celui de la rue Lamarck, même de la Goutte d'Or, il y a celui de la rue Custine, qui sont en train de devenir Bobo. Voilà.
C'est marrant ça, Pierre Passot, je vous prends un témoin, vous le Premier ministre de cette République de Montmartre. On a l'impression que cette République de Montmartre s'intéresse effectivement qu'à ces Montmartrois de haut, comme si vous preniez de haut ce qui était en bas parfois, non ?
Non, justement, non. Je pense que Patrick Frachebout a mis en ce moment raison en disant qu'il n'y a pas un Montmartre, mais des Montmartres. Et à la République de Montmartre, on est vraiment représentatif de tous les quartiers de la butte.
Dites-moi, Patrick Frachebout, c'est un député qui me parle, là.
Oui, je suis député. Mon père était même ambassadeur de la République de Montmartre.
Comment on choisit, Pierre Passot, justement, qui va revêtir et pourquoi une fonction de ministre ?
Les fonctions de ministre sont décidées par le président de la République de Montmartre et c'est lui qui nomme ses ministres.
Faut-il que ceci ait un parcours ?
Tant qu'à faire, oui, bien sûr. On a un ministre des Relations avec le cinéma qui est lui-même un acteur. On a un ministre des Beaux-Arts qui est lui-même un photographe. On a un pharmacien qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais on va aller le rencontrer tout à l'heure.
Très cher Patrick, bon, je vous dis merci pour votre accueil.
Fais gaffe dans ce pays de perdition.
J'imagine que c'est pas vous qui choisissez les musiciens non plus.
Non. Faites attention avec le Premier ministre et le ministre des... Parce qu'on croit qu'ils ont des titres comme ça formidables, mais des fois ils sont un peu... Ils aiment bien la bonne vie. Donc des fois ça peut partir... Mais enfin bon, chez le pharmacien, chez Petit Loup, c'est formidable. Donc il va vous soigner.
Pharmacie de Frédéric Loup.
Monsieur le ministre,
on m'a avoué, mais je parle sous l'autorité du Premier ministre de la République qui est la vôtre, celle de Montmartre, où vous officiez en tant que pharmacien, que néanmoins, ministre, vous ne l'êtes pas de la dite pharmacie, mais alors au contraire de l'art photographique.
En effet, j'ai plusieurs talents. Étant un être exceptionnel, c'est pour ça que je suis rentré à la République de Montmartre. Donc je suis aussi photographe, amateur bien sûr, et je suis ministre de la mémoire photographique de Montmartre, exactement.
Quelle est l'histoire de ce lieu étrange dans lequel nous nous trouvons ?
C'est une pharmacie qui date de 1927, à une époque où tout le quartier a été réhabilité, puisque en 1927, avant, il y avait le maquis, c'est-à-dire des bidonvilles, et il a été décidé de tout raser, les bidonvilles, pour faire des HBM, c'est-à-dire des habitations bon marché. Et il se trouve qu'il y avait au pied de cet immeuble une pharmacie qui date de 1927 et qui perdure toujours. Il y a toujours des brillants pharmaciens qui sont là.
On est là de l'autre côté de l'officine, dans ce que j'imagine être le bureau privé du monsieur le pharmacien, monsieur l'apothicaire.
Alors, il faut savoir que cette pharmacie est ouverte tous les jours jusqu'à 20h, et c'est là que tous les patrons de cabaret, les patrons de restaurants commencent leur journée. Et plutôt que d'aller tout de suite au travail, où il y a un problème d'absentéisme, de toilettes bouchées, de ceci, de cela, viennent un petit peu chercher un petit réconfort dans cette pharmacie, dans l'arrière-boutique de cette pharmacie, où nous délivrons quelques potions qui permettent de leur donner du cœur à l'ouvrage.
Donc, pas que d'alcool à 90, c'est fabuleux ça. Vous êtes le pharmacien avec le plus fort potentiel de, finalement, de clients que l'on puisse recenser à Paris.
Je pense, oui. Mais ils ne sont pas tous malades, malheureusement.
Ça, c'est peut-être l'une des signatures de cette appartenance à la République de Montmartre. Son esprit frondeur, pour ne pas dire plus.
Oh, c'est un esprit frondeur, un esprit montmartrois et un esprit convivial, très convivial.
Monsieur le pharmacien, rassurez-moi, Montmartre ne crèvera pas ?
Montmartre ne crèvera pas, non, il ne faut pas, il ne crèvera jamais. Mais vous savez, la République de Montmartre fait beaucoup pour ceci. C'est l'amitié, la convivialité, la fête, dans la joie.
Kaufen wir etwas Schönes. Dann kaufen wir etwas approche.
Elle est poursuivie par cette nostalgie. Et je l'envie tout le jour. Aspire à l'amour. Elle chante à la lune. Pas froid avec un rhume. Une ville, un océan. Au charme désarmant. Elle claquette sur les pavés. Les collants déchirés. Ses lèvres touchent la pluie. Ses yeux brillent dans la nuit. Sur le boulevard des larmes, les sirènes des gendarmes, une dernière cigarette, une toute dernière conquête. Elle rêve des baisers qu'elle va encore voler. Elle est poursuivie par cette nostalgie. À trois dans la baignoire, mais c'est une autre histoire.
Alexandre Hérault, il existe un endroit.
Vous ne pouviez pas mieux trouver comme endroit pour cette photo, hein ?
Ah ouais, c'est super, hein ? C'est romantique.
Vous avez Paris à vos pieds ?
Ouais, c'est super.
C'est vrai ça, Pierre Passot, cette vue, vous vous en lassez pas ?
Ah, jamais, non.
Merci.
Qui ne connaît pas la place du Tertre et le Sacré-Cœur quand on pense à Montmartre? C'est une évidence. Tous les grands peintres y sont passés. Et aujourd'hui encore, il y a toute une tradition qui perdure avec un nombre important d'artistes qui sont là.
Ils sont près de 300, les peintres du carré de la place du Tertre. 300 à être habilités à exercer officiellement leur talent, plus ou moins probant, leur technique et leur adresse. Ils louent chèrement un demi-mètre carré pour poser leur chevalet autour de cette petite place légendaire, occupée par les terrasses des enseignes, ne faisant pas primer la qualité sur le débit. Ces peintres doivent se battre aussi contre ce qu'on appelle les volants, les voleurs en quelque sorte, ceux qui ne sont pas patentés et virevoltent autour des touristes qui se déplacent en grappe au-dessus des vignes, comme pour les vendangers en quelque sorte. Mais s'ils sont aussi nombreux à perpétuer la tradition dans ce qui est tout de même une vitrine de Paris pour le monde entier, c'est que ça doit bien marcher.
Non, ça ne marche plus. C'est plus la même chose. Je pense que la place de Tertre, malgré sa visite, elle est devenue une énorme salle d'attente. D'un portrait à l'autre, c'est extrêmement réduit, nos gains. Mais bon, mais nous sommes fabricants de souvenirs ici. Ce n'est pas seulement question de gagner l'argent et faire le portrait des gens qui passent. Parce que quand même, dans quelques années, au moment où vous découvrez dans votre grenier un papier plein de poussière, vous déroulez le papier et tout d'un coup, ce qui revient, c'est votre séjour à Paris, votre visite sur le pavé de Montmartre, l'église Saint-Pierre ou Sacré-Cœur et tout le reste ensemble, ça donne un souvenir qui est assez intéressant. Je pense, personnellement, je conçois mon activité ici comme ça.
Fabricant de souvenirs. Très belle définition.
Oui. Mon nom, c'est Vladimir Grafina Djokic, d'origine yougoslave et français de cœur.
Merci. Dans ce jardin, Pierre Passot, qui est peut-être le plus beau, tout simplement de Paris, ce jardin qui jouxte et qui est maintenant rendu en accès libre au public, qui jouxte le musée de Montmartre, qui s'étend sur les vignes, on fait d'étranges rencontres. Par exemple, quelqu'un à qui vous devez, vous, République de Montmartre, à peu près tout.
Absolument vrai. C'est Francisque Poulbeau. C'est un des quatre fondateurs de la République de Montmartre, hein, avec Villette, avec Forain et avec Neumont. Et c'est lui qui a été notamment, comme il est noté sur cette plaque qui se trouve sous ce buste d'Agnès Rispal, le père des gosses, puisqu'en effet, il s'est attaché à essayer de soulager un peu la misère des gosses de la butte dans les années 1920. Et c'est à son initiative qu'a notamment été créé, avec la République de Montmartre, le dispensaire des petits poulbeaux, qui était situé à l'emplacement du poulailler du restaurant de la Pomponnette, qui existe encore aujourd'hui. Et c'est donc à l'intérieur de cet emplacement que les médecins, dentistes, ophtalmos de la butte venaient donner des consultations gratuites pour les enfants nécessiteux et pour leur maman. Et puis c'est le même Poulbeau qui a organisé, avec le concours des Fratellini, beaucoup d'arbres de Noël pour ces mêmes mômes qui se passaient soit au Cirque Medrano, soit au Moulin de la Galette, soit au Moulin Rouge, et avec toujours la même tendresse pour ses gosses qu'il a caricaturé, plus exactement dépeint, plus que caricaturé pendant toute sa vie.
Et qu'on va aller rejoindre là, parce qu'il répète à côté de la place du Tertre dans leur petit local. Je lis les dates de Francisque Poulbeau sur son buste, 1879, mort en 1946. C'est juste indiqué le père des gosses. On sonne à cette porte de la place du Tertre. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alexandre.
Bonsoir, Alexandre. C'est Joël. Bonsoir, jeune homme. Ça va, Ivan?
Oui.
Oh, je t'ai changé de calot. Tu vas réessayer ton calot.
Qu'est-ce que vous faites, Joël?
Moi, je suis en train d'habiller les enfants pour les vendanges, parce que demain, il y a le défilé. Il y a le pantalon, le calot et la veste.
Voilà, c'est le costume typique des petits poulbeaux.
T'es un poulbeau, toi?
Oui.
C'est quoi la qualité principale d'un poulbeau qui est donc un petit musicien?
Oui, c'est un petit musicien, il joue du tambour.
Quand on te donne comme ça ce costume, t'as pas l'impression d'être dans un déguisement?
Non. Et ça fait combien d'années que vous êtes là, vous? 3 ans?
4 ans.
4 ans qui viennent. Et il y a des enfants qui sont là depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans et ils sont là tout le temps. Et les grands s'occupent des petits, il n'y a pas de souci.
Ils ont l'impression d'être les gamins de Montmartre, comme le petit Gavroche?
Ah oui, tout à fait. Ben, ça, ils aiment bien être. Ils sont un peu les Gavroches de Montmartre en ce moment. Il n'y a pas de souci. Et ils sont à Montmartre et ils sont fiers d'être là. Hein? Oui. Impec.
Tout beau, le petit poulbeau.
Attends, tout le monde, j'ai beaucoup à l'eau. Hein. Excusez. Parce que là...
Dans cet itinéraire construit par notre passeur Pierre Passot, celui qui est depuis 13 ans le Premier ministre de la République à Montmartre, il existe des endroits qui, je l'avoue, ne peuvent que provoquer l'envie, voire la jalousie tant ils sont splendides et hors du temps et pourtant à Paris, forever et toujours. Et nombreux sont d'ailleurs les people qui, après Dalida, ont élu la butte comme domicile. Dans ces lieux enchanteurs, choisis pour leur tranquillité, ils vivent en toute discrétion, sans bling-bling aussi. La butte, ce n'est pas Neuilly ou Passy. C'est dans une des plus belles rues sinueuses du vieux Montmartre que nous nous dirigeons maintenant. Parmi vos nombreux ambassadeurs, il y en a un que de nombreux lecteurs connaissent et qui habite dans un endroit privilégié de la butte qu'on... tiendra secret, puisqu'il tient à rester lui aussi discret, c'est le romancier.
Ben, c'est Bernard Werber, bien sûr. Oui. Bernard qui a écrit notamment toute sa saga sur les fourmis, et qui est de ce fait ambassadeur de la République de Montmartre au pays des fourmis.
Tout naturellement.
Ben, évidemment, naturellement.
Ça s'est imposé.
C'est lui qui l'a suggéré, on était d'accord.
D'ailleurs, en ce mois d'octobre, il y a son dernier roman qui vient de sortir. C'est peut-être pour ça qu'il répond pas.
On va le rappeler.
Je m'excuse du retard, j'étais dans les embouteillages.
Je vous invite à rentrer.
Donc on rentre par le garage, ma foi, pourquoi pas. Et vous êtes dans le même état de ravissement, Bernard Werber, à chaque fois, devant ce qui s'offre à vous.
Alors, moi j'étais photographe dans mes débuts, quand j'avais entre 20 et 30 ans.
Avant d'écrire Les Fourmis, donc, avant d'écrire cette trilogie.
En même temps, j'ai mis 12 ans à faire Les Fourmis, donc j'étais photographe, j'étais journaliste, j'ai pas fait que des choses bien dans ma vie.
Je vous en prie.
chaque fois que je me promène dans Montmartre, chaque fois je me dis, tiens, là il y a un cadrage pour une jolie photo. Et ça c'est quand même assez rare à Paris. À Paris, bon, il y a le coin de la Tour Eiffel, il y a Saint-Germain-des-Prés, mais il y a 3 ou 4 angles de photos. Mais sur Montmartre, il y en a des centaines. Il y a des petites rues, il y a des maisons étranges, il y a des vues. On tourne tout d'un coup en coin de rue et tout d'un coup, on voit tout Paris, on voit tout le Nord. C'est assez extraordinaire. Il y a des rues qui serpentent. Il y a la rue Le Pic, évidemment, qui est très connue, mais il y a des rues qui mènent à des impasses où on tombe sur des coins de campagne. Donc, on peut se promener avec un appareil photo et être émerveillé et trouver plein de choses à cadrer, à filmer. D'ailleurs, il y a pratiquement, je pense, un film par semaine dans la rue où je me trouve. Donc, ça montre bien que je ne suis pas le seul à m'être aperçu qu'il y a des jolis cadrages.
Et vous êtes totalement Bernard Werber, là, dans votre rôle d'ambassadeur au pays des fourmis de cette vénérable institution qu'est la République de Montmartre. Il n'y a pas eu une hésitation pour pénétrer à l'intérieur de cette étrange tribu?
Ah, moi, je trouve très bien l'idée de créer un État dans l'État. Je trouve très bien de créer un îlot dans le continent. J'ai l'impression de franchir un autre pays. Donc, je trouve normal qu'ici, on soit un peu comme en Andorre ou à Monaco, une enclave. Voilà. Une enclave, si ce n'est qu'au lieu que ce soit une enclave politique, c'est une enclave de Paris authentique. C'est pas étonnant que le film Amélie Poulain ait été tourné ici. Il y a le sentiment, quand on est ici, qu'on est dans un endroit privilégié et rare, et que dans le futur, ça va s'agiter partout, ça va construire partout, il va y avoir du béton, de l'acier, des vitres, et qu'ici, ça va rester épargné parce que c'est aussi une sorte de petit quartier musée. C'est un endroit où il y a une énergie ancienne, positive, qui a été maintenue et dans lequel on peut se brancher.
Il y a un arrêt du Montmartre-Bus, ce petit bus adapté aux rues de Montmartre, qui indique tout simplement les vignes. Et évidemment, Pierre Passot, c'est incontournable, les vignes, surtout au moment des vendanges.
Un arrêt incontournable, évidemment incontournable, puisque les vignes de Montmartre, c'est un des points phares de notre but Montmartre. Des vignes qui ont été plantées en 1933, qui ont connu leur première vendange l'année suivante, de façon assez folklorique d'ailleurs. Mais on a planté ces vignes à un endroit où se trouvait précédemment un terrain vague, et le fait de les planter a été une occasion d'éviter que des promoteurs immobiliers s'en emparent pour construire soit des habitations dites à l'époque à bon marché, soit pourquoi pas de futurs buildings.
Plus que jamais aujourd'hui, 80 ans plus tard, c'est véritablement, puisqu'on fête le 80e anniversaire des vendanges en ce moment, plus que jamais, c'est un poumon pour cette partie-là de Paris.
Ben c'est rare d'avoir une vigne dans Paris. Et une vigne qui a 80 ans, c'est encore plus rare, puisque c'est la seule, à notre connaissance, bien sûr.
Le Clos de Montmartre, il est buvable ?
Il est parfaitement buvable, bien sûr. C'était pendant un certain temps, jusque dans les années 1970, en gros, c'était plutôt une piquette. Mais aujourd'hui, c'est un vin de qualité. On se plaît à dire que c'est un bon petit vin de montagne.
Un bon petit vin de montagne. Effectivement, ça grimpe. C'est quoi votre parcours aujourd'hui?
C'était Montmartre, puis ensuite on s'en va à Opéra.
Et à Montmartre, vous avez vu quoi?
On a fait tous les spots les plus touristiques possibles, en fait. Sacré-Cœur, Place de Tertre. Enfin, on est venu voir le lapin agile, c'est ça?
Et là, vous êtes quand même en face de quelque chose d'étonnant en plein Paris, non?
Le vignoble? Tout à fait. Oh oui, c'est vrai, on venait voir le vignoble, je l'ai le montré à ma maman aussi. Tout à fait, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être des vendanges demain ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais lui montrer où c'était.
Et vous avez un bon guide quand même.
Oui, je suis vraiment ravie.
Bonne journée.
Vous aussi.
Le lapin agile au pied de la rue des Saules, au pied des vignes de Montmartre, peut-être un des endroits les plus emblématiques, en tout cas le cabaret artistique le plus vieux de Paris.
Le plus vieux de Paris et le plus vieux de Montmartre, puisqu'il remonte à 1860.
J'imagine que ça vous touche, vous, le Premier ministre, de voir ces enfants, ils doivent être en primaire tous, en train de s'emparer de la mémoire aussi du lieu avec leurs profs, là.
Ben c'est formidable, justement, ça prouve que Montmartre a encore de beaux jours devant lui ou devant elle, si on parle de la butte ou si on parle du village. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir des gosses qui s'intéressent et qui essayent d'expliquer ce que peut être le lapin agile. Est-ce que
c'est comme une boîte
vigne
de nuit.
C'est comme une boîte de nuit, mais ancienne, ils disent. C'est rigolo.
On a rendez-vous tout à l'heure.
Ah, bien sûr, on y va.
On sonne, c'est pas encore ouvert, il va nous recevoir. Il nous attend, je crois.
Oh. Bienvenue.
Bonjour, bonsoir. Car la nuit est là.
Eh oui.
Yves Mathieu, je présume.
Oui, 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 bonjour. T'avais quel âge en 68, toi?
Oh, j'étais tout gosse.
En 67, non, non.
22 ans.
J'ai retrouvé une émission qu'on avait faite ici.
Ouais.
Avec Annie Girardot.
Ouais.
Et il me semble que tu étais là.
Ouais.
C'est toi?
Ouais.
Oui, oui, mais il semblait que tu étais assez près du piano.
Non, il était trop jeune.
Oui, c'est marrant, ça.
Donc vous avez fouillé avant qu'on arrive dans vos archives, c'est incroyable, parce que ces archives-là, elles doivent être monumentales, non?
Il y en a un paquet, je regardais dans la Lina, là, justement, j'en ai acheté quelques-unes, mais elles ne sont pas toutes à vendre. Et, au niveau de la radio, alors, il y en a encore plus, de la radio, il y a 75 émissions de radio.
Voilà la 76e.
Ah, ça, les 76e.
Je retiens une phrase que tout le monde a en tête ici. C'est celle de l'un qui a commencé dans vos murs. Yves Mathieu, le petit Claude Nougaro à l'époque.
Oui.
Il a fini par dire, le lapin agile, c'est le coffre-fort de l'éternité.
Oui, mais c'est bien. Je trouve que c'est une belle phrase. Hein. C'est un bon raccourci. C'est un bon raccourci. Et je crois qu'il ne se trompe pas. C'est-à-dire que c'est éternel. Ça va durer encore longtemps, 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 longtemps.
J'ai choisi le lapin, le décor m'y invite, tant il évoque en moi de jeunesse et d'espoir. J'ai choisi le lapin pour y recevoir l'ordre national du mérite. J'ai choisi le lapin, le port, le bateau, l'arche, où je fus embarqué sur le flot des chansons. J'étais parmi les taurillons qui sentent encore le lait de vache. Je revois l'amiral de ce vaisseau chanteur, Polo, fin connaisseur en marle et en merle. Et toi, Yvonne d'Arles, avec ta voix de perle, adossée au rideau dans la rouge lueur. Je vous salue chacun, tour à tour, sur ce seuil qui accueille la vie aussi bien que les deuils. Buvons à la vie.
Alors, en radio, il faut toujours essayer de décrire et de planter le décor. Est-ce que vous nous diriez, vous, Yves Mathieu, que ce décor, aussi, c'est une des choses qui épate tout le monde et qui peut attirer aussi beaucoup de vos clients, n'a pas changé?
Non, voilà, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Les murs sont toujours noircis par la nicotine d'autrefois.
Mais on ne fume pas, on ne fume plus.
On ne fume plus, et donc c'est pas mal pour les chanteurs. Mais bon, bref, c'est le même mobilier. On voit les tables qui sont déjà, ils sont toujours là, sculptées avec des mots, etc., gravés. Et puis les tableaux au mur qui n'ont pas changé, et ils ont tous une histoire.
Mais alors, qui sont les Utrillo, les Picasso, les Bruant, les Apollinaire, les autres qui fréquentent aujourd'hui ce cabaret toujours en vie?
Ben oui, mais c'est-à-dire que quand Picasso ou Apollinaire étaient là, on ne les connaissait pas non plus, on ne sait pas ce qu'ils allaient devenir. Bien Macorlan, Francis Carcourt, Roland Dorgelès, et puis après, tous les trois, ils ont été à l'Académie Goncourt, et même président. Donc, tout ça, c'était parti d'ici, quoi.
Il y a un objet précieux ici, hein, Yves Mathieu. Je ne sais pas où vous le planquez, mais c'est le livre d'or.
Ah, le livre d'or, oui, bah, il est chez moi. Je l'ai bien cadenassé, parce que je le garde parce que, comme c'est quand même du vieux papier, c'est difficile de le feuilleter. Mais je l'ai tout numérisé, hein, j'ai tout numérisé.
Favoriser toujours l'éclosion des nouveaux talents, c'est presque votre devise, tout en sauvegardant ce que vous continuez à appeler le patrimoine ou la tradition.
Le folklore, le patrimoine de la chanson française. Et aussi le répertoire d'Aristide Bruand, évidemment, puisqu'Aristide Bruand a une grande importance au Napingi, puisque c'est lui qui l'avait sauvé de la démolition. À cette époque-là, dans environ 1900, on commençait à démolir toutes les vieilles maisons de Montmartre, Mimi Pinson, Hector Berlioz au bout de la rue Saint-Vincent. Et le lapin était visé aussi. Et donc lui, il a dit, je vais le racheter, il l'a racheté. Et puis après, en 1922, avant de mourir, il l'a revendu à Polo.
Alors Polo.
Le Polo, oui. Polo, le fils de Frédé. C'est pour ça que je suis ici, parce que le fils de Frédé, Polo, a épousé ma mère, j'avais 9 ans à l'époque. C'est pour ça qu'on a continué. Moi, j'ai commencé ici, évidemment, à chanter, mais... j'ai surtout. Après, j'étais au Conservatoire National Supérieur de Musique ici. J'ai créé une opérette à la Gaieté Lyrique, Mini Moustache avec les compagnons de la chanson. Je suis resté 3 ans à Folies Bergères, à mener la revue. Après, je suis parti 3 ans aux États-Unis, chanté au Radio City Music Hall à New York, en vedette. Et oui. Et puis, en 1972, il y a Polo qui m'a dit il faudrait que tu reviennes maintenant, il faut pas laisser tomber. Alors, je suis revenu. Et je suis là depuis 1972, à plein temps.
Et chaque soir, du mardi au dimanche, c'est ça?
Du mardi au dimanche inclus.
Vous chantez?
On chante, oui.
Il y a une chose qui m'aurait fait plaisir avant que vous ouvriez la porte à ceux qui sont encore dehors, avant que 21h ne sonne, c'est d'entendre cette chanteuse qui était madame votre mère.
Ah oui, Yvonne Darle, qui chantait très bien. Et qui chantait surtout du Reynaldo Hahn. Bohème de Verlaine, etc., puis qui faisait beaucoup de succès au Lapin Agile pendant des années.
Il n'y a pas quelque chose, une trace qui...
Vous cherchez d'avoir le mot de passe du coffre, hein, c'est ça, le numéro.
Je sais pas.
Le numéro, oui, attention, vous ne l'aurez pas.
Mais moi, ce que je vais passer comme extrait, c'est « Mon amour était mort » de votre mère.
Ah oui, ça se fait. « Mon amour était mort », ça c'était une chanson qui a, pour moi, qui a compté beaucoup parce que. Que pendant l'occupation, j'étais pas ici, j'étais à l'abri près de la frontière espagnole. Et puis, j'avais trouvé un jour, pendant les vacances, j'avais trouvé le 78 tours de Mon amour était mort. Je l'avais amené avec moi, mais j'ai trouvé dans le grenier une espèce de. Le gramophone.
Vous aviez trouvé un gramophone
qui était cassé. Et j'ai essayé de le tourner avec mon doigt pour entendre Mon amour était mort. Et ça pour moi, c'était. C'est une chanson clé de ma jeunesse.
Mon amour était mort, ma peine était finie, et j'ai sous les yeux pour le leur raconter.
Là, les premiers clients.
Non, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse.
Ah, une chanteuse qui vient d'arriver avec la fougue, qui peut caractériser la jeunesse.
Ah oui, elle est très bien, puis elle chante très bien. Elle s'appelle Mallory Dufaux, c'est son nom. On l'écoutera tout à l'heure.
Bonsoir Mallory.
Bonsoir. Qui êtes-vous?
Ah, le fantôme de la butte.
Le fantôme de la butte, très bien. Qui vient passer sa soirée au lapin. Magnifique.
Ah ben oui, c'est ça, les pensées sont agiles ce soir.
C'est ça, tout à fait.
Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Davis.
Tout.
Allez-y.
Oui. Ok.
Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord au pays ou je ne sais pas.
Vous avez réservation?
Non.
Peut-être bien quatre.
Trois.
Trois.
Ouais.
Le framework.
Hein?
Vous êtes de quel pays?
Chine.
Chine.
Ouais.
Ok, très bien. C'est bien, là. Vous venez pour la culture française, c'est ça?
Ah, oui.
Hein?
Ouais.
C'est bien, ça, les chansons françaises,
ouais,
c'est bien.
Ouais, ouais.
Mais vous payerez en sortant, hein?
D'accord, ok.
Mais pas carte de crédit. Mm. Ok, entrez.
Est-ce que vous voulez boire une petite cerise traditionnelle du lapin à Gilles?
Je ne dis pas non.
Ah, je vous l'apporte.
Jacques, une petite cerise traditionnelle du lapin à Gilles?
Oui, avec plaisir.
Ça arrive tout de suite.
Sacré-Cœur à Pigalle, c'est Paris qui régale. À Montmartre, et de Barbès à Clichy, c'est Paris qui sourit. À Montmartre, place Blanche, rue Le Pic, c'est le Paris sympathique. À Montmartre, le monde entier se fourdit au cœur des guets Paris. À Montmartre.
Et vous, jouez en tant que pianiste ici au lapin à Gilles, c'est forcément convoquer un peu les anciens, un peu les fantômes aussi.
Et un peu les actuels aussi, de temps en temps, parce que on ne vit pas complètement hors du temps non plus. Hein, mais je crois aussi qu'on subit tous l'influence de nos anciens, des monstres sacrés qui ont fait leur premier pas ici, dans ces lieux.
Traditionnellement, Yves Mathieu arrive toujours pour ouvrir les soirées.
C'est le gardien du phare.
Comment trouver le mot de la fin ? Yves Mathieu, peut-être qu'il vous appartient, tout simplement, après cette promenade-là, avec ce qu'en sont un peu les gardiens aussi de la mémoire, la République de Montmartre, de le trouver, vous le chansonnier, ce mot de la fin.
Demain, ça recommence.
Ainsi s'achève notre balade montmartroise. Remerciements à tous les membres croisés de la République de Montmartre qui ont su m'accueillir, dont leur président, Alain Coquart. On remercie aussi, sur les hauteurs de la butte, ceux qui m'ont communiqué leur passion. Daniel Roland, le président de l'association des Amis du Vieux Montmartre, Alain Turban, qui vient de sortir son dernier disque, Poulbeau, et Midani, le vaillant directeur de l'incontournable trimestriel Paris-Montmartre. Toutes les informations sont sur notre site internet franceinter.fr, à la page de l'émission, ou sur notre page Facebook, qui existe pour que vous la rejoigniez et formiez une petite communauté d'amateurs, auditeurs, qui n'hésitent pas à nous écrire et à partager leurs impressions. Il existe un endroit. Attaché de production, Claire Destacan. Programmation musicale, Djoubaka. Mixage, Stéphane Beaufils. Une réalisation, Dan Kobilac. La semaine prochaine, nous quittons Montmartre et ses vendanges pour nous rendre, juste après la récolte, en Bourgogne, au sein des plus prestigieux crus du monde, pour partager avec une poignée de vignerons bourguignons leur passion. Nous serons en Côte de Nuit village, à Corgoloin. Mais pour l'heure, c'est avec l'approche Afrique enchantée que vous avez rendez-vous. Tout de suite, après le flash.